Donc, bonjour à tous. Je vais vous partager ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur. Est-ce que vous avez pour habitude de poser des questions au Seigneur? Moi, j'en ai. Des questions du genre, pourquoi telle ou telle situation? Pourquoi la souffrance sur la terre? Et Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire au travers de cette situation ou de ce passage que je lis? Peut-être que vous aussi, il vous arrive de vous poser ce genre de questions. En tout cas, du temps de Jésus, eh ben ses contemporains, ceux qui étaient avec lui posaient toutes sortes de questions. Des questions pour mieux apprendre sur la personne de Jésus, des questions pour le piéger, pour l'éprouver, ou encore des questions pour savoir comment être sauvé, comment avoir la vie éternelle. Et il y a que pas beaucoup de personnes lui ont posé la question sur la vie éternelle, comment hériter de la vie éternelle. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le jeune homme riche qui lui a posé cette question, comment faire pour hériter la vie éternelle. Une autre personne en avait posé la même question, mais c'était pour piéger Jésus, c'était un docteur de la loi. Donc, nous allons ce matin lire dans l'évangile de Marc, au chapitre 10. Et voilà, on a beaucoup de questions qu'on peut se poser. Les enfants peuvent se poser des questions sur l'école, ça ne marche pas. Ou nous, les grands, sur le travail, on a du mal. Ou même pour s'occuper des enfants, on n'y arrive pas. On peut poser tellement de questions au Seigneur. Et aujourd'hui, si je dois donner un titre au message, c'est la bonne question à poser au Seigneur, ou les bonnes questions que nous devons poser au Seigneur. Donc je vous invite à prendre Marc 10, je vais vous faire la lecture, à partir du verset 17 jusqu'au verset 27. Marc chapitre 10, à partir du verset 17. Et dans ce passage, ce que je vais faire, qu'on voit ensemble, c'est tout ce qui peut empêcher les hommes aujourd'hui à embrasser cette vie éternelle que le Seigneur leur propose. Et mais nous aussi, qui sommes chrétiens, c'est qui peut nous empêcher d'affermir la vie que nous avons reçue de Jésus. Vous savez, l'apôtre Paul, d'ailleurs, encourageait son disciple Timothée à combattre le bon combat et à saisir la vie éternelle chaque jour. Donc, je vais lire Marc, chapitre 10, à partir du verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres, « et qui peut être sauvé ? Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Dès le début, il dit, Jésus se mettait en chemin. On sait que le ministère de Jésus, c'était pas un ministère fixe, mais plutôt itinérant. Il se déplaçait beaucoup à pied avec les disciples. Il allait de ville en ville, de village en village, dans le pays Israël, pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer le chemin du salut. Et la vie éternelle, c'est une expression qu'on trouve essentiellement dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a, selon les traductions, que deux références qui en parlent. La première, c'est dans Genèse, quand Adam et Ève ont désobéi et que Dieu les a chassés du jardin et a mis des chérubins avec des épées tournantes pour empêcher que Adam et Ève ne retournent dans le jardin pour prendre du fruit de l'arbre de la vie et d'en manger et d'en vivre éternellement. La deuxième référence est dans le livre prophétique de Daniel, où il est plus référence de la fin des temps, où tous les hommes ressusciteront, et selon ce que chacun aura fait de sa vie, il y en a qui ressusciteront pour la vie éternelle, et les autres pour la honte ou l'opprobre éternel. Donc, hormis ces deux références-là, à ce que je sache, il n'y en a pas d'autres mentions de la vie éternelle dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, les promesses, c'était surtout des promesses terrestres, des promesses d'un royaume de paix, de sérénité, pour le peuple, pour la nation juive, mais seulement sur terre. Les bénédictions, les biens matériels, tout était terrestre. Dieu voulait bâtir un royaume terrestre avec son peuple. Beaucoup d'enseignements de Jésus étaient réfutés. Beaucoup de personnes ne croyaient pas à ce qu'il disait. Et il n'y a pas de doute que aussi sur la vie éternelle, les gens devaient pas trop adhérer. Parce qu'ils n'en avaient jamais entendu parler par le passé, ni là, comme je viens de le dire, l'Ancienne Alliance n'en parlait pas, la loi de Moïse n'en parlait pas. Mais il y avait quand même des personnes que ça suscitait de la curiosité, des personnes qui étaient quand même intéressées, comme un autre jeune homme riche. Donc il est dit ici, quand il a vu Jésus, il a couru vers Jésus pour aller lui poser la question, comment faire pour hériter la vie éternelle? On sait que beaucoup de gens couraient pour aller vers Jésus pour des problèmes de santé, de maladie, ou de famille, et quand ils voyaient Jésus passer, c'était la seule occasion pour eux, pour avoir une délivrance certaine, de demander à Jésus la guérison, ou que Jésus leur ouvre les yeux, ou que Jésus les fasse marcher. Mais notre jeune homme ici, c'était pas son souci. Ce qu'il avait de préoccupant pour lui, c'était de savoir comment faire pour hériter la vie éternelle. Et vous conviendrez avec moi que si on avait une seule question à poser au Seigneur Jésus, ce serait cette question-là la plus importante. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur, pour hériter la vie éternelle? Ou si on l'a déjà, qu'est-ce que je dois faire pour affermir la vie éternelle? La question la plus importante, vous remarquerez, ce jeune homme, il n'a pas demandé quel conjoint je dois choisir pour vivre avec, ou bien quel métier je dois faire, quelles études je dois faire. Ce sont des questions qu'on peut se poser, qui sont importantes. Mais si on avait une seule question à se poser, ce serait l'éternité. Où est-ce que je dois passer mon éternité et avec qui? Et ce jeune homme, c'est une question qui le taraudait, qui le minait l'esprit. Il n'était pas tranquille et il avait entendu que Jésus annonçait la vie éternelle. Et ça avait suscité sa curiosité. Et il se dit, si je vois Jésus, je ne vais pas le rater. Je vais aller lui poser la question pour en savoir plus. Et c'est ce qu'il a fait. Il a couru vers Jésus. Il s'est prosterné devant lui. On voit une attitude de complète soumission. Il s'agenouille devant une personne qu'il pense être plus grande que lui. Et il pense que cette personne a la réponse à sa question. Et donc le jeune homme va dire, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Bon maître, qu'est-ce qu'il voulait bien dire en rajoutant le qualificatif « bon » devant maître pour qualifier le Seigneur? Est-ce qu'il voulait caresser le Seigneur dans le sens du poil? Est-ce qu'il voulait l'amadouer? Ou est-ce qu'il voulait se distinguer des propos que Jésus a l'habitude d'entendre sur sa personne? En tout cas, Jésus ne va pas répondre immédiatement à sa question, mais il va saisir l'occasion de repasser, de rendre la gloire à Dieu en disant « Dieu seul est bon ». Ou alors, cette question, on pense que va lui faire Jésus, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a de bon que Dieu seul ». C'est aussi une manière de demander à ce jeune homme « Crois-tu que je sois Dieu? Penses-tu réellement que je sois Dieu ?» Et donc, Jésus, d'abord, place Dieu au centre. Il aurait bien pu accepter cet éloge, en prendre la gloire, mais non. Dieu seul est bon. Bien sûr, en fait, que Jésus est Dieu. Et il le demande aussi à ce jeune homme, quelque part, de cette manière, crois-tu que je sois Dieu? Il replace Dieu au centre. Ensuite, on est dans l'ancienne alliance. On est dans l'Ancien Testament. Et selon ce que dit Lévitique 18, verset 5, Dieu a donné des commandements aux hommes et celui qui les mettra en pratique vivra par elles. C'est ce que dit Lévitique 18, verset 15. Et donc, pour répondre à cette question, Jésus, va citer au jeune homme les commandements de Dieu. Il ne va pas tous les citer. Il va en citer du 6e au 9e. Il n'aura pas cité les 4 premiers, ni le dernier commandement. Les 4 premiers, ce sont notre relation avec Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, pas d'idole, tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain, tu respecteras le sabbat. Ça, Jésus ne l'a pas cité. Et les autres évangiles qui citent, qui relatent cette histoire, ne le citent pas. Peut-être parce que c'était des commandements que tous les juifs obéissaient un peu plus facilement que les autres. Ça avait directement trait avec Dieu et c'était sérieux. Voilà. Donc, peut-être pour ça. Et, par contre, le 10e commandement qui dit, tu ne convoiteras point la maison, la femme, le serviteur, le bœuf, ni la chose qui appartient à ton prochain, Jésus ne l'a pas cité. Pourquoi? Peut-être parce que c'est le seul commandement, finalement, qui est impossible humainement à obéir. Les gens pouvaient obéir facilement les 9 premiers commandements, mais le 10e, personne. Même pas l'apôtre Paul, qui dans son témoignage en Romains 7, je vais vous le lire, le 10e commandement sur tout ce qui est convoitif, tout ce qui est dans le cœur. Je vais lire, on avait déjà vu il y a quelques semaines. En Romains 7, je lis les versets 23 et 24. Quand il dit, je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché. Qui est dans mes membres, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. On avait vu comment l'apôtre Paul faisait référence à cette nature pécheresse qu'il avait et qui l'amenait toujours à pécher. Et comment il avait tellement de convoitise et de désir dans son cœur charnel et que qui était contraire à la loi de Dieu, à la loi de Dieu. Et donc ces commandements que Jésus a cités se résument quelque part par le commandement tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Galates 5:14 nous dit toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et nous savons que pour aimer son prochain comme soi-même, il faut aimer Dieu premièrement. Et le passage parallèle dans le livre de Matthieu, qui relate cette histoire, rajoute cette phrase, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et nous savons aussi que la Bible enseigne clairement que ce n'est pas sur la base des œuvres qu'on est sauvé, ou sur en observant la loi. C'est pas ça qui nous sauve. On a des lois dans l'Ancien et dans la Nouvelle Alliance. C'est pas le fait de les obéir qui nous sauve. C'est Jésus seul qui nous sauve. Mais, parce que dans ce récit, on est encore sous l'Ancienne Alliance, Jésus va citer la loi comme moyen pour avoir la vie éternelle au jeune homme riche. Et comme je le disais plus tôt, en Lévitique 18:5, il est écrit ceci, vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. C'est vrai qu'il s'agissait principalement de la vie physique, mais c'est aussi le seul moyen pour ceux qui mouraient de pouvoir rentrer dans la vie éternelle, dans la présence du Dieu éternel, pour l'éternité. Jésus répond donc à la question du jeune homme en citant la loi. et les commandements qui rentrent dans le cadre des relations humaines. Sauf le dernier commandement, qui est un commandement qui se vit dans le cœur, où la personne ne peut voir si on a échoué ou pas. À la différence des autres commandements, qui sont plutôt des commandements extérieurs, si quelqu'un tue, si quelqu'un vole, si quelqu'un commet un adultère physique, si quelqu'un manque de respect à ses parents, eh bien ça va se voir immédiatement. Et on connaît la sanction, c'était une punition de mort. Et sur ces commandements cités par Jésus, le jeune homme est irréprochable. Il répond, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Et dans le passage parallèle dans Matthieu 19, il rajoute, que me manque-t-il encore? Voilà la seconde question de notre jeune homme riche, désireux d'avoir part à la vie éternelle. Seigneur, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Le Seigneur lui a dit, ensuite, n'étant pas satisfait, il demande au Seigneur, que me manque-t-il encore? Il a toujours honoré ses parents, il n'a jamais menti, depuis sa jeunesse, il n'a jamais volé, il n'a jamais fait de tort à personne. Est-ce que nous, on pourrait dire autant? Quelque part, ce jeune homme riche est un peu meilleur que nous, mais à la différence qu'il n'acceptera pas l'offre du Seigneur. Il est vraiment l'image du juif type qui a obéi à tous les commandements de Dieu et que Dieu a béni et que Dieu a fait prospérer matériellement. Pour répondre à la question du jeune homme, comment hériter la vie éternelle, Jésus va lui recommander trois actions. Va, vends tout ce que tu as, donne-les aux pauvres. Remarquez, pas à Dieu, donne-les aux pauvres. En échange, il aurait eu dans le ciel un trésor. Deuxième action, viens à moi, viens à Jésus. Et la troisième, suis-moi. Il vient et il va partout où Jésus veut qu'il aille. Ici, on a une définition en quelque sorte de la vie éternelle. On pourrait en avoir plusieurs, en prenant une concordance biblique, trouver plusieurs définitions de la vie éternelle. Mais ici, il s'agit d'être dans l'attente, d'être un jour dans le ciel. Il faut venir à Jésus, le suivre, c'est-à-dire marcher chaque jour avec lui. Qu'il soit physiquement là, au temps des apôtres, ou qu'il soit absent physiquement avec nous, la vie éternelle consiste à le suivre chaque jour, pendant tout le temps de notre pèlerinage sur terre. Jésus est en effet la seule porte et le seul chemin qui mène à la vie éternelle. C'était ça la réponse pour le jeune homme, mais il n'a pas compris. Au verset 22, il est dit que le jeune homme s'en est allé tout triste en ayant écouté la parole du Seigneur. Lui qui était venu tout excité, s'agenouillant devant le Seigneur, lui posait la question. Le bon maître a parlé, mais ce qu'il a dit pour lui n'était pas si bon que ça. Parce qu'il avait de très grands biens, il ne voulait pas s'en séparer. Peut-on dire que Jésus est bon aujourd'hui et demain dire qu'il est trop strict? Oui, le jeune homme riche en est la preuve. Que l'on peut dire que Jésus est bon, il est bon maître, mais demain, quand il nous dit de faire telle chose, on dit, ah non là, tu es trop strict. Agir de la sorte témoigne d'une seule chose, c'est qu'on n'est pas complètement à Jésus. Il était affligé par la parole du Seigneur. Est-ce que nous aussi, à la lecture de sa parole, de certains passages, nous nous sentons affligés ou nous nous réjouissons de sa parole, comme dit le psaume 119 au verset 162? Si la parole de Dieu nous afflige, c'est que nous n'avons pas encore réellement compris notre vraie nature. La parole de Dieu est là pour révéler notre vraie nature. Et c'est notre vraie nature qui devrait nous affliger par la parole de Dieu. Elle est là pour notre bien. Le jeune homme riche voulait la vie éternelle. Mais autant que cela dépende de ses forces, de ses moyens, et que cela ne lui coûte pas trop cher. Le Seigneur lui a dit, va, fais ci, fais ça, et reviens. Il est parti tout triste. Nous savons pas ce qu'il est devenu après. Peut-être qu'il a-t-il le temps de réfléchir et qu'il est revenu, on ne sait pas. Et là, Jésus avait mis le doigt sur quelque chose qu'il ne voulait pas lâcher. Le Seigneur lui demandait un sacrifice immense. Et voyant la réaction de ce jeune homme, Jésus va nous donner, à ses disciples et à nous, un enseignement qui montre qu'il y avait peu de chances que le jeune homme soit revenu. Il va dire qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et les disciples seront étonnés de cela. Mais Jésus va répéter ce qu'il a dit. Mes enfants, verset 24, qu'il est difficile pour ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Comment peut-on être aussi proche du but comme a été ce jeune homme et complètement raté sa cible au seuil de la porte pour entrer dans la vie éternelle et on fait demi-tour? Qu'est-ce qu'il pouvait bien se dire en venant chercher auprès de Jésus la réponse à sa question? Il avait sans doute l'impression d'avoir déjà tout parcouru dans sa vie, mais il n'était pas satisfait. Peut-être qu'il pensait qu'il fallait que Jésus lui fasse simplement une imposition de main, une prière, quelque chose de mystique qui ne lui coûterait rien, et hop, c'est bon, j'ai la vie éternelle. Peut-être qu'il s'attendait simplement que Jésus le baptise dans les eaux du Jourdain, j'en sais rien. En tout cas, il ne s'est pas dit que Jésus pouvait lui demander quelque chose qui allait lui coûter. Que Jésus allait lui demander un sacrifice à faire. Et même si c'était imaginé qu'il fallait faire un sacrifice, il se serait dit, ben, ce sacrifice, je dois le faire à Dieu, et non aux hommes, et non aux pauvres. Et même si c'était un sacrifice à faire aux hommes, il était loin de s'imaginer que ce serait la totalité de sa fortune, de son héritage, de sa richesse, de ses biens. Jésus a mis le doigt sur quelque chose de sensible. Son amour pour les biens matériels qui avait complètement envahi son cœur. C'est là qu'était son trésor, complètement corrompu dans les richesses. Comme a dit Jésus, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, en Luc 12. Son amour pour l'argent était telle une infection qui gangrène une jambe au point où la jambe, elle est irrécupérable, il faut amputer la jambe entièrement. La gangrène s'est déjà dissimulée dans toute la jambe, il faut amputer la jambe. Jésus lui a dit, tu dois tout donner. Remarquez que Jésus ne l'a pas dit à tout le monde. Tu dois tout donner. Il ne nous dit pas aussi à nous, on doit tout donner. À Zachée, le publicain, Zachée a donné la moitié de ses biens aux pauvres. Et ça, Jésus a accepté. Parfait. Que la moitié, pas tout. Parce que dans le cas de Zachée, son amour pour l'argent n'était pas aussi répandu, aussi important que dans le cas du jeune homme riche. C'était peut-être que l'extrémité de la jambe, il ne fallait pas amputer toute la jambe, il fallait juste couper un bout et le guérir de cette gangrène qui l'infectait. Nous aussi, nous devons prendre un instant de réflexion, maintenant ou plus tard, devant le Seigneur, et nous poser la question. Sur quoi le Seigneur a eu à mettre le doigt dans ma vie en me demandant de sacrifier et de le suivre? J'espère qu'il y a eu des choses sur lesquelles on a fait des sacrifices, on a tiré un trait. Qu'est-ce qui a de la valeur à mes yeux et que j'ai dû tirer un trait dessus ou reléguer au second plan pour suivre Jésus? Après donc que le jeune homme soit parti, Jésus a regardé autour de lui, comme pour attirer l'attention de ses disciples, pour leur donner cet enseignement sur les richesses et l'amour des richesses. Qu'il sera difficile, pas impossible, qu'il sera difficile à ceux qui ont les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Cela étonne les disciples parce que bénédiction matérielle, prospérité, c'était synonyme de faveur divine. Ceux qui obéissaient aux 10 commandements ou aux lois de Moïse, Dieu les faisait prospérer. Et ça les étonne. C'est pour ça qu'ils disent, mais qui peut être sauvé alors? Parce que pour eux, ceux qui sont riches, ce sont ceux que Dieu a bénis. Et ce sont ceux qui iront au ciel. Mais Jésus leur dit, ah non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Il sera, Jésus rajoute même, c'est humour, il sera plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Le problème, c'est parce que beaucoup de riches sont plus enclins à se confier, à trouver leur assurance, à mettre leur confiance dans leur richesse, dans leur argent, et qui n'ont besoin de rien d'autre. Et Jésus nous met en garde ici contre l'amour de l'argent et toute autre forme de choses créées, matérielles, sur lesquelles nous aussi on peut tirer une certaine assurance, une certaine confiance. Si les disciples s'interrogent de savoir si quelqu'un peut être sauvé, le Seigneur est bon, humainement, c'est impossible qu'un homme se détache de l'amour de l'argent. Humainement, c'est impossible. Mais à Dieu, cela est possible. Seul Dieu peut délivrer un homme de l'amour des richesses, de l'amour de l'argent. Et derrière le mot richesse, il n'y a pas que l'argent ou des biens matériels. Il y a toutes ces choses sur lesquelles on s'appuie pour vivre indépendamment par rapport à Dieu. Vous voulez peut-être que je vous dise en quoi vous et moi nous sommes riches. Nous avons des richesses, peut-être pas comme le jeune homme, de l'argent ou des biens. Mais tout ce que nous ne sommes pas prêts à sacrifier, si le Seigneur nous le demandait, nous en sommes riches de ces choses-là. Ce sont ces choses que l'homme ne veut pas sacrifier, qui l'empêchent de recevoir la vie éternelle et qui nous empêchent, nous chrétiens, d'affermir la vie de Jésus que nous avons reçue en nous. Il ne doit rien avoir dans nos vies que nous refusions de sacrifier si le Seigneur nous le demandait. Y a-t-il des choses dans nos vies? Pas besoin de répondre là tout de suite. Chez soi, méditer sur cette question. Y a-t-il des choses comme ça dans ma vie que si le Seigneur me demande de sacrifier, je ne saurais pas le faire? Me concernant, quand je donne ma vie au Seigneur, il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'ai dû faire un sacrifice. J'ai complètement changé de direction. Mais je sais qu'aujourd'hui, il y a encore des choses pour lesquelles je ne suis pas prêt. Du moins, je n'ai pas assez de recul ou la force de l'accepter. Je réfléchis dessus, mais je vois ce que le Seigneur fait aussi dans ma vie. C'est que de plus en plus, il remplit mon cœur de son amour. Et toutes ces choses-là prennent de moins en moins d'importance dans ma vie. Pour reprendre un peu dans les évangiles, les gens qui ont eu affaire à Jésus et qui ne voulaient pas de cette vie éternelle, qui n'acceptaient pas Jésus à cause des richesses qu'ils avaient, pas forcément matérielles comme je le disais, on peut penser aux scribes ou aux pharisiens ou aux principaux sacrificateurs du peuple. Eux, ils avaient leurs coutumes, ils avaient leurs traditions qui passaient avant la loi de Dieu. Et ils avaient aussi, ils se vantaient aussi de la connaissance de la loi de Moïse qu'ils avaient. Et ça, c'était un frein pour eux pour rentrer dans la vie éternelle, pour même comprendre, pour même envier, pour même désirer de connaître ce que c'est que la vie éternelle. Et Jésus condamnait toutes leurs pratiques religieuses parce qu'elles avaient qu'un seul but, de les vanter devant les hommes. L'apôtre Paul avait aussi des richesses avant sa conversion. Et on propose de lire en Philippiens 3, les versets 1 à 11. Philippiens 3, versets 1 à 11. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Confiance en la chair, c'est confiance en mes capacités, en mes moyens, en tout ce que j'ai. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis davantage. Moi, et voilà ses richesses, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. J'ai trouvé deux exemples pour nous dans l'Ancien Testament de personnes aussi qui avaient des richesses qui n'étaient pas forcément matérielles. Abraham, par exemple, son fils Isaac, représentait une véritable richesse par rapport à tous ses biens qu'il avait, ses serviteurs, ses troupeaux qu'il avait. Isaac était le fils de sa vieillesse, le fils de la promesse par qui Dieu donnerait à Abraham une postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel et le sable sur le bord de la mer. Mais Dieu lui avait demandé d'offrir Isaac en sacrifice. Et pendant 3 jours de marche pour aller sur le mont où il allait faire le sacrifice, Abraham a dû réfléchir sur cette demande que lui avait faite Dieu. Mais au final, il était prêt à obéir plutôt que de préserver ce qui commençait à devenir une idole dans son cœur. Vous vous souvenez aussi de l'histoire de Naaman, le Syrien, le chef de l'armée du roi de Syrie, en 2 Rois, chapitre 5. Il avait de la carrure, il avait de la position, il avait des grades dans son pays, il avait une renommée. Il avait des honneurs par ses batailles qu'il avait gagnées. Et avec tout cela, on ne pouvait pas lui parler n'importe comment. Il attendait le respect de tout le monde. Sauf qu'avec Dieu, par l'intermédiaire d'Élisée, le prophète, pour que Naaman soit sauvé de sa lèpre, il fallait qu'il laisse tout ça de côté. Et qu'il s'humilie. Et qu'il fasse ce que le petit prophète lui a demandé de faire. Et aujourd'hui, c'est quoi nos richesses et celles de nos concitoyens? Bien sûr, il y a l'argent et les biens matériels qui passent en premier, mais il y en a d'autres choses encore. La popularité sur les réseaux sociaux, la science, les inventions, le divertissement, l'intelligence, les idées, les philosophies. Et même pour nous, la connaissance de la Bible peut être vue comme une richesse. Nos accomplissements et notre service pour le Seigneur. Nous pouvons aussi réfléchir là-dessus en se disant, voilà tout ce que j'ai fait. J'en suis riche, des choses faites pour Dieu. Avec toutes ces choses que je viens de citer, souvenons-nous qu'aux yeux de Dieu, on est si gros qu'il est plus difficile pour nous de passer par la porte étroite qui mène à la vie éternelle, qu'il est pour un chameau qui essaie de rentrer par le trou d'une aiguille. Peut-être que nous n'avons pas ce recul pour nous voir si gros, si orgueilleux, si confiants de nos richesses, mais le Seigneur, il nous voit plus gros qu'un chameau qui fait rentrer par le trou d'une aiguille. Je voudrais conclure. C'est une chose d'être conscient des richesses sur lesquelles on se confie, d'être inconscient, pardon, sur les richesses qu'on se confie, mais c'en est une autre de demander au Seigneur de nous les montrer, de nous les révéler. Et qu'une fois qu'il nous a montré les choses sur lesquelles nous nous appuyons, que nous ne lui obéissions pas quand il nous demande de faire des sacrifices. Au jeune homme riche, il manquait une seule chose à faire. Être détaché de l'amour des richesses. Que son cœur soit circoncis, détaché de cet amour. Son cœur était cette terre recouverte d'épines que décrit le Seigneur dans la parabole du semeur, en Luc 8, 14, et dans laquelle la graine, une fois semée, poussait. Mais, très vite, elle était étouffée par les épines. Les épines représentant des soucis, des plaisirs de la vie. Si nous, on a accepté le Seigneur aujourd'hui, nous n'avons plus à lui demander, Seigneur, que faire pour avoir la vie éternelle? Mais nous avons besoin de poser d'autres questions, comme ce jeune homme. Que me manque-t-il, Seigneur, à faire? Que me manque-t-il à faire chaque jour pour affermir cette vie que tu m'as donnée? Que me manque-t-il pour affermir cette vie? Que me manque-t-il pour que l'entrée dans le royaume des cieux, quand je quitterai cette terre, me soit pleinement accordée? Dans 2 Pierre, au chapitre 1, je lis ceci. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire, par sa vertu, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en suivant la convoitise qui existe dans le monde, par la convoitise. À cause de cela, même, faites vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété. À la piété l'amour éternel, à l'amour éternel la charité, car ces choses sont, si ces choses sont en vous, et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisif, ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point, il est aveugle, il ne voit pas loin, il a mis en oubli la perpétuation de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume de l'Éternel, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Que voudrions-nous entendre au jour où le Seigneur nous accueille dans son royaume? Bon, allez, vas-y, rentre. C'est le Seigneur qui parle. Je me demandais si tu allais tenir jusqu'au bout et y arriver. Ou alors le Seigneur nous dit, c'est bien bon et fidèle serviteur, te voilà enfin, je t'attendais depuis un moment pour me montrer à toi. Rentre dans la joie le repos de ton maître. Qu'est-ce que nous voudrions que le Seigneur nous dise? Nous devons affermir notre vie, la vie que le Seigneur nous a donnée, pour que l'entrée nous soit pleinement accordée. On voudrait tous que le Seigneur nous parle ainsi. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alors, apprenons à demander au Seigneur, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque? Et avec compassion, avec amour, le Seigneur posera ses regards sur nous et nous montrera. Et à nous de renoncer à ce qu'il nous demande de sacrifier et de faire ce qu'il nous demande de faire. Et si nous sommes dans l'optique d'affermir cette vie éternelle que nous avons reçue du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne, il nous manquera toujours, toujours quelque chose à changer, à faire, à améliorer dans notre vie. Et c'est seulement quand nous verrons le Seigneur Jésus face à face que nous serons totalement changés à sa ressemblance. J'espère que nous sommes conscients du manque, des choses qui nous manquent à faire, et que nous sommes convaincus que nous avons encore des progrès à faire. Si nous pensons avoir déjà fait le tour de la question, c'est sûr que nous allons beaucoup nous ennuyer en attendant le retour du Seigneur. Que le Seigneur, qui voit nos cœurs, nous fortifie tous, et que si nous sommes sérieux de vraiment vouloir avancer, de vouloir lui faire plaisir, eh bien, il fait ce travail dans nos cœurs. Il fait ce travail de purifier nos cœurs, de nous montrer ce qui n'est pas correct, ce qui n'est pas à sa place dans nos cœurs et dans nos vies. Et que nous aussi, nous prenions à cœur de l'écouter et de faire ce qu'il nous demande de faire. Et de sacrifier les choses qu'il nous montre. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Que le Seigneur nous bénisse tous et nous aide pour la suite. Permettez-moi juste de prier. Seigneur Jésus, je te bénir et te rendre grâce pour ta parole qui parfois touche à des endroits où on n'a pas trop envie de se dévoiler, mais en fait que tu vois et tu regardes au cœur. Seigneur, rien ne peut être caché devant toi. Seigneur, combien nous avons besoin de toi et de te voir et de connaître comment a été ta vie pour nous conformer. Mais parfois nous sommes tiraillés encore entre ce que tu nous demandes de faire et ce que nous pensions être le mieux pour nous. Seigneur, qu'il n'en soit pas ainsi, que tu sois vraiment celui qui nous dirige et que nous passons notre confiance en toi et non dans notre chair et non dans ce que nous avons et non dans les moyens matériels que tu nous bénis avec. Nous ne voulons pas, Seigneur, qu'il en soit ainsi. Alors fais ton œuvre dans nos cœurs, dans nos vies, pour que nous te chérifions, que nous t'aimions, que nous te plaçons vraiment à la première place et que nous choisissions de t'obéir jusqu'à nos désirs, à nos convoitises mondaines, charnelles. Aide-nous, Seigneur, à faire des progrès et à te trouver fidèle, Seigneur, pour toi, chaque jour et pour ta gloire, Seigneur. En ton nom, je prie. Amen.